Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une semaine d'Instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est le grand retour des speakerines sur le service public. Brushing et tailleur impeccable, sourire impressionnant, les mains parfaitement posées sur le genou. Christine Beauval sera ce soir sur France 2. C'est l'héroïne d'une nouvelle série française avec Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec. L'histoire d'une femme qui tente de s'émanciper sur fond de guerre d'Algérie et d'intrigues policières. Une plongée savoureuse dans la France des années 60 et qui pose des questions intéressantes sur la télé d'aujourd'hui. La productrice de Speakerine est mon invitée et c'est un Instant M 100% série télé ce matin puisqu'on retrouvera notre chroniqueur Romain Nigita de retour du festival Cannes Série. Bienvenue à tous.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba.
Bonjour Charline Delépine.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes la productrice de cette série tout en brushing, choucroute, speakerine. Je voudrais avant toute chose saluer le travail de décor et d'accessoires qui est assez impressionnant. L'immersion dans les années 60 est bigrement réussie et ça fait de l'effet même quand on n'a pas connu ces années-là d'ailleurs. Tout y est, hein, les postes de télé, de radio, les meubles, les voitures. Ça a été compliqué à reconstituer la France de 62.
Oui, c'est vrai que c'est un vrai boulot, mais qui vient depuis l'écriture. C'est-à-dire qu'on a évité, depuis l'écriture, d'avoir trop d'extérieur. Car la difficulté, c'est pas tellement de faire des intérieurs, de trouver des lieux où être en studio, comme on est en grande partie en studio, mais c'est plutôt les extérieurs. Dès qu'on met un nez dans Paris, eh bien, on a de la pollution contemporaine et qui coûte très cher à éliminer. D'ailleurs, on s'est rendu compte que notre ville est entièrement taguée partout. Il a fallu...
Ça, c'est pas très sixties.
Non, c'est pas très sixties. Beaucoup d'effets spéciaux pour camoufler tous ces tags. Et ensuite, évidemment, dès qu'on est dans la rue, on a besoin de figurations en costume et d'accessoires qui sont les voitures. Donc on avait, depuis l'écriture, essayé de les limiter, oui.
Voilà, mais il y a quand même des DS et des Simca, donc on est rassurés.
L'intérêt était quand on avait un extérieur, qui soit magnifique.
Sans parler du matériel de montage télé sur bande qui est spectaculaire. On retourne en 62 avec vous dans un instant, Charline Delépine, juste après la chronique de Romain Nigita. Bonjour Romain.
Bonjour Dorothée.
Vous étiez donc à Cannes la semaine dernière pour la première édition de ce festival Cannes Série. Un tapis qui était rose et non pas rouge, mais des invités de marque et notamment un certain Jean-Jacques Haneau. C'est pourtant bien un festival de séries télé.
Et oui, pas d'erreur. En fait, le réalisateur de La Guerre du Feu et du Nom de la Rose vient de réaliser sa première œuvre pour la télévision. Il s'agit de l'adaptation de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, le best-seller de Joël Dicker. Ça sera diffusé prochainement sur TF1, mais c'était présenté hors compétition à Cannes Série. Et justement, j'ai demandé à Jean-Jacques Haneau pourquoi il avait décidé d'en tirer une série en 10 épisodes plutôt qu'un film.
Alors là, pas de doute de ma part, quand vous avez un livre enchevêtré avec tellement de talent, mais qui fait exprès de mélanger les pistes et de mettre en scène un grand nombre de personnages, ce serait un massacre de le faire en film. Parce que vous n'avez pas le temps, tout simplement. Le livre fait 780 pages, ça vous donne une matière formidable pour faire 8 à 10 heures de film, j'appelle ça du film. C'est la même chose, c'est le même métier, vous savez. Il s'agit de raconter en images et en son une histoire vibrante d'émotion et de suspense.
La vérité sur l'affaire Harry Kéber, diffusion donc prochaine sur TF1. Et les mariages entre littérature et série télé sont décidément dans l'air du temps. Preuve avec cette nouvelle série d'Arlan Coben, auteur de Polar, le maître du frisson.
Il avait déjà créé The Five, qu'on avait pu voir sur Canal+. Mmh. Il revient avec Safe, la première série télé produite pour C8, présentée elle aussi hors compétition. Dans le rôle principal, c'est l'acteur Michael C. Hall, que j'ai également pu rencontrer. Alors vous le connaissez sûrement sous le nom de Dexter, il était aussi formidable dans 6 Feet Under.
Oh que oui.
C'est donc un habitué des séries que j'ai demandé. En quoi Coben est différent des vétérans de la télévision ?
Il est différent car c'est un type accompli, avec un succès incroyable, mais il est aussi un nouveau venu dans ce domaine, donc il est très enthousiaste, il est comme un gosse. Je pense que ça l'amuse de créer ses histoires avec tout un groupe de personnes, alors que d'habitude, il est tout seul. Mais étant donné le type de roman qu'il écrit et le type de narrateur qu'il est, il est tout à fait adapté à ce genre de choses, car il voit l'image d'ensemble, il comprend les rouages, et comment un élément en affecte un autre, et encore un autre. C'est un novice de la télévision, mais il n'est pas novice en ce qui concerne ce type de narration.
Voilà, c'est un petit bleu, bien sûr, Harlan Coben. Romain Nigitard, on a appris la semaine dernière que Netflix ne ferait pas partie de la sélection du Festival de cinéma à Cannes. Alors évidemment, la place des plateformes de type Netflix et Amazon était au cœur des conversations aussi au Festival des séries. Et vous en avez parlé avec le docteur Mamour de Grey's Anatomy, Patrick Dempsey. Son regard sur les canaux de diffusion des séries pour les années à venir.
Et oui, Patrick Dempsey était là puisqu'il joue le Harry Kéber de la série de Jean-Jacques Hano. Et en effet, il a joué pendant 11 saisons dans Grey's Anatomy, une série diffusée aux États-Unis sur une grande chaîne hertzienne gratuite, celle qu'on appelle là-bas les networks.
Je pense que les chaînes hertziennes vont continuer à exister, mais le business du streaming est en train de prendre le dessus et il n'y a plus de retour en arrière possible désormais. Je pense qu'elles vont continuer, ça va être intéressant de voir comment les grandes chaînes vont réagir. Mais elles vont le faire, ce n'est qu'une question de temps, c'est simplement un plus gros bateau à faire tourner.
Et en parlant de gros bateau, cette interview a eu lieu sur le yacht du producteur.
Oui, on est quand même à Cannes. Un coup de cœur, Romain, dans la compétition officielle de ce festival série.
Oui, mon coup de cœur, c'est la série israélienne Miguel, une histoire très touchante d'adoption racontée sur deux époques en parallèle, lorsqu'un petit garçon de 5 ans est adopté au Guatemala par un jeune homme israélien, et puis 15 ans plus tard, lorsque ce même jeune enfant est devenu adulte et il retourne dans son pays natal pour tenter de retrouver sa mère. La distribution a amplement mérité son prix d'interprétation collectif.
Et ça s'appelle Miguel. Ce sera bientôt à la télé en
France. Aucune idée.
Aucune idée. Bon, à suivre. On rappelle que l'autre festival des séries, hein, Série Mania, démarre à Lille et ce sera dans 10 jours. On peut aussi signaler celui de Monte-Carlo et de Fontainebleau en juin. Merci beaucoup, Romain Nigitin. Tenez, puisqu'on a une productrice de télé, de fiction télé en studio, une question sur ce doublon qui agite le petit monde de la télé depuis quelques mois. Un festival à Cannes, piloté par Fleur Pellerin. Un autre à Lille, sous le haut patronage de Martine Aubry et Xavier Bertrand, qui ont mis de côté leurs divergences politiques pour l'occasion. Est-ce que c'est mauvais pour le marché de la télé, ce doublon, Charline de Lépine ?
Non, je ne crois pas que ce soit mauvais. C'est vrai que c'est un peu étrange, ces deux festivals qui sont séparés de 15 jours, 3 semaines. C'est un peu curieux. Mais je ne crois pas que ce soit mauvais. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y ait des festivals de séries. Et je vous rappelle qu'il y a quand même...
On passe de rien à beaucoup, quand même.
On passe de rien à beaucoup, c'est vrai. Je pense
presque
que
rien.
Ça, une élimination naturelle se fera probablement. Ce qui est intéressant, c'est de penser qu'il y a 10 ans, quand je disais que je produisais des séries, on me posait systématiquement la question de « Et vous ne faites pas de long métrage ?» et qu'aujourd'hui, cette question ne m'est plus jamais posée, que les séries ont vraiment une réelle existence, que les comédiens de cinéma viennent faire des séries, et c'est surtout ça que je retiens.
Et d'ailleurs, le réalisateur de la série que vous produisez vient du cinéma, hein, c'est Laurent
Tuel,
le réalisateur de Jean-Philippe notamment.
De Jean-Philippe et de La Grande Boucle, oui, il n'avait jamais fait de série précédemment.
L'instant M sur France Inter.
5, 4, 3, 2, 1, antenne.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter le programme de la soirée. Après votre rendez-vous avec les actualités, nous vous proposons un nouveau numéro de notre émission La vie en chanson. Ce soir, c'est la merveilleuse Barbara qui aura le plaisir de nous enchanter.
C'est coupé.
Profession plante verte, donc. Marie Gillin dans le rôle de la speakerine vedette de la RTF ce soir sur France 2. La RTF, c'est bien sûr l'ancêtre de l'ORTF. Une plante verte qui a des envies d'émancipation. Elle voudrait une émission de télé à elle et ne plus se contenter de jouer les faire-valoir. Le mari de la speakerine prétendument moderne va-t-il supporter les ambitions de sa femme? Les deux premiers épisodes de cette nouvelle série française qui touche aussi à la politique et à l'enquête policière sont diffusés ce soir sur France 2. La productrice de speakerine, donc Charline Delépine, est mon invité. Il y a, je le disais, un aspect délicieusement vintage. L'ambition était-elle de faire un Mad Men à la française ?
L'ambition était de raconter la France des années 60, mais sans que les décors et les costumes prennent trop de place.
On rappelle que Mad Men, c'est le monde de la publicité aux États-Unis dans les années 60 également.
Et donc, dans ce monde de la publicité des années 60, sans doute, le côté design est extrêmement important. Nous, on ne voulait pas que les décors et les costumes prennent trop de place. On voulait quand même que ce soit nos personnages qui soient au centre. C'est peut-être la différence France avec Mad Men. Maintenant, ça se passe exactement à la même époque et j'espère qu'il y a quand même cette French touch dans Speakerine, en tous les cas, que vous l'ayez perçu ainsi et que les téléspectateurs le perçoivent ainsi.
Il y a une différence colossale avec Mad Men ou même avec Downton Abbey, pour parler d'une autre série à costume, c'est qu'il y a une intrigue policière dans Speakerine. Est-ce que c'est indispensable en France de mettre du thriller à toutes les sauces, sinon le téléspectateur va s'ennuyer?
Alors, je pense que le téléspectateur français, et c'est en tous les cas le feedback que nous avons des analyses, n'aime pas tellement ce qu'on appelle la chronique. C'est-à-dire, d'avoir des épisodes où on suit la vie des gens sans enjeux très importants.
C'est trop lent pour nous, les Français, Mad Men par exemple.
Visiblement, les Français ont du mal à s'y accrocher. Moi, j'ai une analyse qui est la suivante, c'est que il me semble qu'on a été nourris, nous Français, au feuilleton. Même depuis le 19e, j'aurais tendance à dire, et que la structure du feuilleton, les Français l'aiment beaucoup, c'est-à-dire beaucoup d'événements, et des événements qui suivent les uns derrière les autres, exactement comme le feuilleton dans les journaux 19e.
Alors l'immersion dans les années 60, Charlène Delépine, ça pose aussi la question du casting. Est-ce qu'il fallait des comédiens au physique, si j'ose dire, intemporel, qui n'aient pas l'air d'être déguisés quand on les habille en années 60.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et la question s'est vraiment posée quand on a cherché l'héroïne, Christine Beauval. Et Marie Gillin est ressortie assez vite. On a fait beaucoup d'essais. Parce que Marie a quelque chose d'assez intemporel. Elle est très jolie. Elle a une voix qui colle parfaitement aux années 60 aussi. C'est-à-dire qu'elle arrive à moduler sa voix et à parler un peu plus lentement que beaucoup de comédiens. Et puis, c'est une vraie femme, Marie. Elle va me détester de dire ça, mais c'est une femme avec des formes. Elle n'a pas ce côté un peu vieille petite fille qu'on peut trouver de temps en temps chez certaines comédiennes.
Voilà. Ce qui est problématique, c'est qu'avoir 40 ans en 62, ça n'est pas avoir 40 ans en 2018. Ça ressemble pas à la même chose. C'est subtil, mais c'est un travail de casting, là aussi.
C'est un travail de casting, et ensuite c'est un travail de costume, et de maquillage et de coiffure, oui.
Quelles sont les vraies speakerines qui ont inspiré ce personnage? Catherine Langeais, Jacqueline Joubert, Denise Fabre?
Vraiment, celle qui nous a le plus inspiré, c'est Jacqueline Joubert, parce que Jacqueline Joubert a eu ce parcours-là. C'est-à-dire, elle était speakerine, et elle avait des velléités de productrice. Et puis, ça s'est aussi mélangé avec quelqu'un qui n'était pas speakerine, mais qui est Eliane Victor, qui elle aussi a beaucoup souffert de la misogynie ambiante quand elle a voulu créer son magazine qui s'appelle Les Femmes aussi. C'est-à-dire que Portrait de Femme, le magazine dont on parle dans Speakerine, qui est le magazine que veut...
Qu'elle voudrait avoir, mais c'est pas si simple.
Avoir, c'est un peu Les Femmes aussi d'Eliane Victor.
Alors le mari de Christine Beauval, joué par Guillaume de Tonquédec, est le directeur de l'information de la RTF. Et s'il accepte que sa femme travaille, il voudrait pas non plus que ses ambitions personnelles soient dérangées. Et notamment la Mondovision, qui est un grand projet de diffusion franco-américaine.
Sois patiente, mets ton projet en veilleuse pour le moment.
En veilleuse?
Au moins jusqu'à la fin de la Mondovision.
Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Je te rappelle que j'ai arrêté mes études pour élever nos enfants. Pour nous, mais pour toi aussi. Et maintenant que je pourrais faire autre chose à la télévision que l'idiote de service, tu me demandes d'y renoncer?
T'es vraiment incroyable, je t'annonce un truc fabuleux et toi tu penses qu'à toi.
Voilà, c'est ça le point de départ de cette série, Charlène Delépine, une histoire d'émancipation féminine.
Oui, c'est vraiment l'histoire de l'émancipation d'une femme. On ne peut pas dire que son mari soit un odieux personnage, même si, à nos yeux, aujourd'hui, il nous paraît assez détestable.
Il est très moderne, il la laisse travailler.
Il la laisse travailler. Il faut quand même se rappeler que dans la France des années 60, un homme dont la femme travaillait, ça voulait dire qu'il n'était pas capable d'assumer le ménage. Donc oui, ils n'ont pas vraiment besoin d'argent et ils la laissent travailler. Et c'était important pour Guillaume d'avoir la modernité de son personnage en tête, même s'il nous paraît assez odieux aujourd'hui. Mais pour lui, c'était important et je crois que c'est essentiel de penser que ce n'était pas un sale type. Voilà, ça n'est pas un sale type, c'est un homme de son époque et qui trouve que sa femme est quand même terriblement capricieuse.
C'est une série qui raconte la misogynie d'une époque. Toute ressemblance avec aujourd'hui serait purement fortuite, Charlène Delépine?
Je ne sais pas, regardons autour de nous. Est-ce que les hommes aujourd'hui aiment que leurs femmes aient des situations qui soient plus rémunératrices ou plus extérieures que la leur? Je crois que la question se pose toujours, évidemment.
Autre question qui se pose parfois, comment se fabrique un JT? On est en 62 et je le rappelle, Guillaume de Tonquédec est le patron de l'info et c'est un gaulliste pur sucre.
Attentat OS à la voiture piégée dans le port d'Alger, 11 morts, 35 blessés.
Non, on a assez d'horreur de ce genre ici.
Le mois dernier, 18 explosions à Paris en une seule nuit. Mmh. On n'en a jamais parlé non plus. Les gens ne sont pas idiots, ils le savent, pourquoi on n'en parle pas?
Parce que c'est politique et que c'est le ministère qui décide et qu'il ne veut pas qu'on parle de l'OAS. Ça vous va?
Et pourquoi je suis là alors? Vous n'avez pas besoin de journaliste? Demandez à l'Élysée de nous envoyer directement les titres du journal.
Lefebvre, je sais que vous n'êtes pas du même bord politique que nous, mais ne poussez pas le bouchon trop loin. Je ne veux rien sur l'Algérie.
Voilà, le JT piloté directement par le gouvernement. Ça vous a semblé intéressant, en 2018, de se repencher sur cette époque et sur les liens entre journalistes et pouvoir?
Oui, c'est-à-dire que nous avons profité de ce côté feuilleton hyper romanesque pour tout de même raconter des choses qui doivent, dont on doit se rappeler. Il me semblait que c'était très important de se remémorer que jusqu'en 65, les femmes n'avaient pas de compte en banque, ne pouvaient pas travailler sans l'accord de leur mari. Et assez vite, au travers de la documentation, on s'est dit qu'il fallait absolument de parler cette relation entre le pouvoir et le monde de l'information. Vous vous rendez compte que chaque après-midi, les bobineaux du journal parlaient, passaient au ministère de l'information et des PTT, je crois que c'est même à l'envers, c'est des PTT de l'information, pour être vérifiés, checkés, et De Gaulle lui-même prenait des décisions.
De Gaulle, d'ailleurs, le personnage plane sur toute la série, mais on ne le voit jamais, hein, lui qui disait un ministère de la femme, pourquoi pas un ministère du tricot?
Un sous-secrétariat au tricot, ce qui est encore pire.
Vous avez raison, la précision de la citation. Alors, l'intérêt de Speakerine, c'est aussi qu'on est juste avant mai 68, Charline Delépine, et il y a cette phrase prémonitoire au sujet de la Mondovision, hein, toujours ce grand projet franco-américain, une américaine qui dit dans la série « Bientôt, tous les Européens regarderont des programmes américains, vous verrez ». On voit bien que personne ne la croit. C'est intéressant de raconter un avant qui raconte beaucoup de choses.
Oui, c'est toujours la jouissance des auteurs d'être aussi dans l'anticipation et de semer quelques petites graines pendant toute l'écriture. Et là, c'est vrai, forcément, nous, on sait ce qui s'est passé après. Donc, je pense que ça fait partie du plaisir qu'on a regardé cette série.
Il y a une terrible menace qui pèse sur le personnage de Marie Gillin, alias Christine Beauval, c'est celui de passer de mode, la menace de passer de mode. Il faut se méfier de la petite nouvelle doucereuse et ambitieuse qui risque de lui piquer sa place. Les cycles de mode ont-ils évolué aujourd'hui, Charline Delépine? Est-ce que ça passe plus vite, à votre avis, à la télé?
Je suis pas certaine que ça passe plus vite. Je pense que la problématique est toujours la même. On disait dans le vent ou in à cette époque. Mmh. On va dire être au top aujourd'hui. Mais ça raconte toujours la même chose. C'est que, en vieillissant, on peut être écarté assez rapidement d'un job, quel qu'il soit, pas forcément à la télévision d'ailleurs.
Il y a quelque chose qui m'a frappé puisqu'on disait que c'est une série sur l'émancipation féminine. Il y a aussi des choses plus subtiles, notamment un personnage de Speakerine dont tout le monde dit qu'elle est nulle, mais qu'on la laisse là parce qu'elle couche avec un ministre. Une autre qui appuie clairement son ambition dévorante sur sa capacité à séduire le patron de la RTF. C'était pas évident dans une série féministe de placer ce genre de personnage, j'imagine.
Il faut quand même rester logique, c'est-à-dire on a un personnage extrêmement positif qui est Marie Gillin, et à côté de ça, il faut aussi quand même qu'on raconte un peu la vraie vie et rester réaliste. Finalement, dans cette course au pouvoir ou à la notoriété, quelle que soit l'époque, les travers sont toujours les mêmes, me semble-t-il.
On lit beaucoup dans la presse qu'il y a trop de choses dans cette série, que voilà, cet aspect thriller, policier est un peu en trop. C'est une commande de la chaîne, clairement, c'est France 2 qui vous a dit il faut absolument mettre du thriller dans Speakerine.
Oui.
Vous le regrettez?
Non, je le regrette pas du tout, je vais vous dire pourquoi. En fait, au départ, on était plus en chronique, ce qui, de fait, n'est certainement pas la bonne façon.
Donc la vraie vie des vrais gens.
Oui, c'est pas la bonne façon de narrer, il me semble. C'est pas celle qu'attend le public. Et c'est quand même une série terriblement populaire, et je la revendique en tant que telle. Le thriller nous a permis une chose, c'est que ça nous a permis d'avoir une relation avec le pouvoir. Parce que, comme il y a du thriller, il y a une enquête. Et ça nous a permis d'aller fouiller dans les relations avec le pouvoir, et j'en suis assez contente. En fait, je trouve que les lignes narratives sont assez claires.
Et c'est ce soir sur France 2, les deux premiers épisodes de cette série qui en compte 6. Speakerine, merci beaucoup Charline.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et à bientôt sur France Inter.